Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru en 1984, ce premier tome de Jean-Charles Asselin couvre la transformation de l'économie française depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il ne propose ni une simple chronologie des régimes politiques, ni un récit isolé de la révolution industrielle. Son objet est d'expliquer les rythmes, les structures et les contradictions d'une croissance qui conduit un pays majoritairement rural vers une puissance industrielle et financière, sans reproduire le modèle britannique. Historien et économiste, Asselin mobilise les acquis de l'histoire quantitative pour réexaminer une idée longtemps dominante, celle d'une France continuellement en retard. Le livre insiste plutôt sur une trajectoire originale, faite de progrès réels, de ralentissements relatifs et de spécialisations productives particulières. Agriculture, industrie, commerce, monnaie, démographie et politique douanière sont donc étudiés comme des facteurs liés. Cette synthèse vise à rendre intelligibles les grands retournements économiques et à replacer les performances françaises dans une comparaison européenne et internationale. Prudente, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une industrialisation française graduelle plutôt qu'un décollage unique. Asselin met en cause l'image d'une industrialisation française manquée parce qu'elle ne suivrait pas la cadence anglaise. La comparaison avec la Grande-Bretagne révèle bien des handicaps initiaux, notamment une avance technologique britannique, une exploitation charbonnière plus favorable et des transformations agricoles plus profondes. Mais elle devient trompeuse si elle impose le modèle du décollage rapide comme étalon universel. En France, l'industrie moderne émerge progressivement à la fin de l'Ancien Régime, coexiste longtemps avec les manufactures, l'artisanat urbain et la production rurale dispersée, puis connaît plusieurs accélérations au cours du 19e siècle. Cette lenteur relative exprime aussi une structure productive distincte. Les biens de consommation, le textile et les productions de qualité tiennent une place importante, tandis que la grande industrie ne supprime pas immédiatement les petites unités. Les effets d'entraînement entre secteurs restent moins concentrés que dans le cas britannique, ce qui limite les ruptures spectaculaires. Le livre invite ainsi à distinguer niveau de production, rythme de croissance et nature de la spécialisation. Une économie peut progresser durablement sans connaître un basculement unique. Cette lecture aide aussi à comprendre pourquoi les évaluations trop globales ont souvent assimilé différences de trajectoire et échecs économiques. Deuxièmement, la Révolution et l'Empire transforment les règles sans supprimer les ruptures économiques. La période révolutionnaire et impériale occupe une place essentielle car elle combine changements institutionnels profonds et fortes désorganisations conjoncturelles. La disparition des droits féodaux, la suppression des corporations et l'affirmation de la liberté d'entreprendre modifient durablement le cadre de la propriété, du travail et de l'activité commerciale. Ces réformes peuvent ouvrir des possibilités nouvelles pour la croissance moderne. Toutefois, Asselin évite d'en faire une cause mécanique et immédiate de l'essor industriel. Les guerres, l'inflation, les troubles intérieurs, les difficultés du commerce maritime et les contraintes du blocus pèsent lourdement sur la production et les échanges. L'industrie française ne sort donc pas indemne de ces décennies et l'écart technologique avec l'Angleterre peut même s'accroître. Le consulat et l'Empire apportent une stabilisation monétaire et soutiennent certaines activités. Mais le protectionnisme et la fermeture des marchés ne compensent pas toujours la perte des approvisionnements ou des débouchés coloniaux. L'analyse distingue ainsi les effets structurels des institutions et les chocs immédiats de la guerre. Elle montre que les évolutions économiques ne se déduisent pas directement des changements de régime. Le nouvel ordre juridique est durable, mais la croissance dépend aussi des marchés, des techniques, des capitaux et de la stabilité des échanges. Troisièmement, agriculture. Marché intérieur et démographie façonnent une croissance singulière. Le livre accorde à l'agriculture une fonction centrale dans l'explication du développement français. À la fin du XVIIIe siècle, elle demeure dominante, même si les rendements progressent dans certaines zones et si les crises de subsistance reculent à long terme. Les contraintes héritées de l'Ancien Régime. La diversité régionale des systèmes agraires et le maintien d'une petite propriété nombreuse limitent cependant la vitesse des transformations. Après la Révolution, la consolidation de la propriété paysanne favorise la stabilité sociale mais ne produit pas une restructuration comparable aux enclosures britanniques. Cette configuration influence l'industrie de plusieurs façons. Elle entretient un vaste marché intérieur, soutient certaines productions de consommation et retarde dans une partie du pays l'exode rural ainsi que la concentration de la main-d'œuvre industrielle. Asselin souligne surtout la portée de la démographie. La France connaît précocement un ralentissement de sa croissance démographique, phénomène plus original encore que son évolution économique. Il affecte la taille du marché, les disponibilités de travail et les comparaisons avec les puissances allemandes ou américaines. Il serait donc insuffisant de mesurer la performance par la seule production totale. Le niveau de vie, la production par habitant, la structure de l'emploi et la dynamique de la population conduisent à un bilan plus nuancé des forces et limites françaises. Quatrièmement, chemin de fer, finance et politique commerciale réorganisent le 19e siècle, pour Asselin. La croissance du 19e siècle dépend moins d'une cause isolée que de la mise en relation graduelle des marchés, des transports, du crédit et des choix de politique économique. Le chemin de fer joue un rôle décisif dans la phase d'accélération du milieu du siècle. Il réduit les coûts de circulation, élargit les débouchés et stimule la métallurgie, la construction mécanique et les investissements. Cette modernisation ne signifie pourtant pas que toutes les régions ou toutes les branches avancent au même rythme. Les déséquilibres territoriaux demeurent importants. La stabilité monétaire, installée durablement après les désordres révolutionnaires, facilite également les calculs et les engagements financiers. La France acquiert une puissance financière considérable et investit largement hors de ses frontières. Le livre ne confond pas cette force financière avec une suprématie industrielle générale. Le pays reste confronté à la concurrence de l'Allemagne et des États-Unis. La politique douanière illustre elle aussi les ajustements successifs. La période de libéralisation autour du traité commercial franco-britannique de 1860 ne met pas fin aux tensions sectorielles. Et le retour du protectionnisme à la fin du siècle répond aux difficultés agricoles et commerciales. Ces variations montrent que l'ouverture extérieure agit différemment selon les branches et les phases de croissance. En dernier lieu, la Belle Époque contredit le déclin absolu mais révèle des retards relatifs. Les années qui précèdent 1914 constituent une phase de reprise importante, particulièrement utile pour comprendre la thèse générale du livre. Après les ralentissements de la fin du 19e siècle, de nouvelles activités comme l'électricité, l'automobile et la mécanisation contribuent à un regain industriel. Le développement de l'éducation, des techniques et des moyens de paiement accompagne cette modernisation. La France se distingue notamment dans certains secteurs de production et d'exportation, ce qui interdit de la réduire à une économie immobile ou exclusivement agricole. Asselin ne transforme pas pour autant cette reprise en récit de rattrapage achevé. Vers 1913, le pays fait face à des concurrents devenus plus puissants dans plusieurs domaines. La Grande-Bretagne conserve des atouts financiers, les États-Unis disposent d'un niveau de vie et d'une capacité productive considérable. Et l'Allemagne affirme sa puissance industrielle. Les écarts régionaux, le poids encore élevé de l'agriculture et le vieillissement démographique limitent la portée relative de la croissance française. La conclusion implicite est méthodologique autant qu'historique. Il faut distinguer un déclin relatif, produit par la croissance plus rapide des concurrents, d'un déclin absolu. La France de la Belle Époque reste une économie dynamique et diversifiée. Mais sa position internationale ne correspond plus à celle de première puissance européenne qu'elle avait occupée à la fin du XVIIIe siècle. En conclusion, ce volume s'adresse en priorité aux étudiants en histoire, économie, sciences politiques ou classes préparatoires. Mais il reste utile à tout lecteur qui cherche une vue structurée de la formation de l'économie française moderne. Sa principale valeur intellectuelle tient à la manière dont il relie données de longue durée et événements politiques sans réduire les unes aux autres. On y comprend mieux pourquoi la révolution, les guerres, le chemin de fer, le protectionnisme, la structure agricole ou la démographie ne peuvent être interprétés séparément. L'ouvrage fournit aussi une précaution pratique pour lire les comparaisons internationales actuelles où passer une croissance moins rapide que celle d'un voisin ne signifie pas nécessairement stagnation et une position financière forte ne garantit pas une domination industrielle générale. Par rapport au manuel centré sur une succession de régimes ou sur le seul récit de la révolution industrielle, Asselin se distingue par son attention au rythme irrégulier, aux spécialisations sectorielles et aux débats issus de l'histoire quantitative. Son propos ne cherche pas à célébrer une exception française ni à confirmer un retard permanent. Il construit plutôt un diagnostic nuancé, où les avantages et les fragilités changent selon les périodes. La concision de la synthèse, alliée à une réelle ambition comparative, explique son intérêt durable comme ouvrage de référence. Le lecteur y gagne des repères solides pour situer la France entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis, tout en comprenant que les trajectoires nationales ne suivent pas une voie unique. Si vous souhaitez soutenir Jean-Charles Asselin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.